Bien, bonsoir à tous et à chacun, vous qui êtes présents dans les salons Albert Mola et vous qui nous écoutez au travers du site mola.com. Soirée exceptionnelle. Madame Mona Ouzouf nous fait l'honneur de sa présence. Madame, bonsoir.
Bonsoir.
Madame Mona Ouzouf va nous entretenir de son dernier livre, Jules Ferry, La liberté et la tradition, publié dans la collection L'Esprit de la Cité chez Gallimard. Madame, oserais-je vous rappeler que vous êtes agrégée de philosophie, directrice de recherche au CNRS, que vous avez publié de nombreux ouvrages, dont Varenne, la mort de la royauté, Composition française, pour lequel vous avez reçu le prix Montaigne. Sous votre direction et celle de François Furet, le remarquable recueil de textes sur la Gironde et les Girondins. Je recommande cet ouvrage à tous nos lecteurs. Puis, tout récemment, nous avons pu relire un choix d'articles publiés dans le Nouvel Observateur, ce qui a été publié sous le titre « La cause des livres », édité chez Gallimard. Madame, ce nouveau livre sur Jules Ferry n'est pas pour m'étonner. Vos parents furent instituteurs. Les vrais, ceux dont la mission était chevillée au corps et à l'esprit. Votre modestie qui est grande, dût-elle en souffrir, permettez-moi de déclarer à nos amis qui nous écoutent que ce livre est à mes yeux un petit chef-d'œuvre. Combien je partage l'éloge prononcé l'autre jour sur les ondes de France Culture par Jean-Louis Bourlange qui soulignait l'élégance de votre style. Le style du beau langage au service de la rigueur. Je trouve que la formule est vraiment très belle. Madame, vous souhaitez au travers de ce livre restituer la cohérence de la figure politique de Jules Ferry, cet homme, comme vous dites, fendu en deux. Il a été l'un des hommes les plus connus de notre histoire de France, mais aussi, très certainement, à son époque, le plus haï. Ferry Famine, Ferry le Tonkinois, le valet de Bismarck, l'athée de la patrie prononcé par Barbanzingue, Déroulède, et surtout accusé par Clemenceau de haute trahison. Or, cet homme était doté d'une détermination rare, ayant des objectifs précis, refaire la France comme patrie morale, puis comme grande puissance, artisan, comme vous le soulignez, artisan de l'identité française. Et si vous le voulez bien, on va commencer à parler de l'homme Ferry, qui est mort relativement jeune, 61 ans, et a réalisé pratiquement son grand œuvre à l'âge de 47 ans.
Oui, alors, pour comprendre Ferry, il faut en effet penser à ce qu'il a, à sa formation, et à quelle école lui-même il a été élevé. Je crois que pour tout comprendre de l'œuvre de Ferry, il faut avoir en tête une scène primitive qui est 1848. Ferry a 16 ans en 1848. Il est en rhétorique au lycée de Strasbourg quand arrive dans la ville la nouvelle éblouissante de la Révolution de février. Alors, pourquoi éblouissante ? Parce qu'il vient d'une famille profondément républicaine. Les Ferry étaient, la famille Ferry était des fondeurs de cloches vosgiens qui avaient eu la bonne fortune d'acheter des biens nationaux sous la Révolution et le grand-père était devenu, sous le directoire, maire de Saint-Dié. À partir de là, toute une généalogie républicaine, un oncle Émile, qui est visiblement une des figures fondamentales de son enfance, qui a été lieutenant à Waterloo, et qui élève, avec le père d'ailleurs, le père et l'oncle élèvent les petits Ferry, c'est-à-dire Jules et son frère Charles, dans l'adoration des gloires républicaines. Les bustes de Voltaire et de Rousseau sont au salon, ils président à l'éducation. Et les jeunes garçons apprennent à lire dans le National, dans la presse républicaine. Le père est du reste un opposant déterminé à la monarchie de Juillet et un adversaire de Guizot.
Libre penseur.
Libre penseur. libre penseur, mais avec une famille malgré tout catholique et une sœur extraordinairement dévote et pieuse. Ce qui fait que Ferry n'oubliera jamais ce versant possible de, comment dire, de la sensibilité française. Donc, 48, date éblouissante pour les deux jeunes garçons, pour les raisons que je viens d'exposer. Et ils entreprennent immédiatement de pavoiser de tricolore la maison familiale. Et puis cet enchantement dure très exactement le temps d'un bref printemps, puisqu'arrive, là nous sommes en février, arrive le mois de juin, arrive l'émeute des rues, l'embrasement des rues, l'ensanglantement des rues parisiennes, la répression, et Ferry a le sentiment que se reproduit une séquence très bien connue de la politique française. Les Français mettent assez d'entrain à proclamer, à faire la révolution, puis à proclamer les républiques. Mais très vite, ils sont rattrapés par la lutte des classes, par l'émeute, par la répression, par la terreur. Et puis, ils cherchent un sauveur. Et eux qui viennent de sacrifiés à la liberté, les voici qui se vautrent à nouveau dans le césarisme et qui cherchent un maître. Cette séquence a eu lieu sous la Révolution. Voici qu'elle se reproduit avec une seconde République qui dure très peu de temps, puisqu'elle va elle-même s'achever dans le recours à un nouveau sauveur, neveu du reste du précédent, un nouveau Napoléon. Donc on a l'impression que, enfin, le jeune homme va très vite avoir le sentiment que la politique française est une politique qui est à la fois chaotique et radoteuse.
Je trouvais la formule extraordinaire. Oui, je l'ai souligné, radoteuse.
Oui, alors elle est chaotique, bien sûr, puisque aucun régime ne parvient à se pérenniser. Il faut avoir en tête, quand on étudie le 19e siècle, qu'aucun régime ne dure plus de 18 ans et que tout régime devient pour le régime précédent, non, pour le régime suivant, pardonnez-moi, un ancien régime détesté. Donc on va de République première en République seconde, en République troisième, d'empire, de premier empire en second empire, de monarchie restaurée, celle de Louis XVIII et de Charles X, en monarchie un peu bricolée, presque déjà républicaine, celle de Louis-Philippe. Bref, aucun régime ne dure et personne ne, les Français ne savent plus exactement à quel sein se vouer. Donc chaotique en effet, et menacé toujours par la Révolution. Ça va se reproduire après 70, j'y reviendrai. Mais là, on est en 48. Donc, et radoteuse, bien sûr, puis pour les raisons que j'ai dites, puisque tous les régimes portent le chiffre 2 ou le chiffre 3. Et que même, il y a cette anomalie extraordinaire de voir une monarchie porter le nom d'une révolution. La monarchie de Juillet porte paradoxalement le nom de la Révolution de Juillet. Donc, tout ça fait un paysage, pour un jeune homme, qui est un peu un paysage bizarre. Et de plus, ce jeune homme qui a tous les espoirs, qui est le brillant élève du lycée de Strasbourg, qui se prépare à une brillante carrière, qui veut servir l'État, arrive 3 ans après le Second Empire, il voit que ces carrières-là lui seront barrées, il se replie sur le barreau et au fond, il se replie pendant quand même tout le temps que dure le Second Empire, sur une sorte, comme tellement de gens de sa génération, il se replie sur une vie qui sera une vie d'études, de réflexions, de voyages, pour comparer la France à d'autres régimes et pour mieux comprendre ce qui se passe en France. Donc, une sorte de désenchantement initial, de malchance initiale, qui va, dans le cas de Ferry, se révéler une chance. Parce que la parenthèse que lui offre l'Empire va être une parenthèse qu'il va mettre à profit en étudiant, en voyageant, en faisant de fortes lectures, en lisant à la fois Tocqueville, Auguste Comte, Spencer. bon, en voyageant beaucoup et en animant avec les jeunes gens, ses amis, les cercles d'opposition à l'Empire où, au fond, il se prépare, mais ça dure longtemps. Et en réalité, ça aurait pu durer énormément longtemps sans la guerre de 70 et sans la défaite incompréhensible pour des Français qui avaient l'habitude de la gloire militaire, qui se souvenaient d'avoir encore tenu l'Europe à merci, et qui se font battre de façon piteuse et très, très vite par une armée prussienne qu'ils méprisaient. Or, cette défaite, suivie d'une nouvelle révolution, la Commune, nous savons quelle est la dernière de nos révolutions, mais évidemment, ces gens ne le savent pas. Et quand Ferry arrive aux affaires, enfin, en 1879, quand il arrive aux affaires, c'est encore tout proche, c'est-à-dire qu'une séquence de nouveau dramatique de l'histoire française vient de se produire. Et là, j'arrêterai là pour cette première présentation. Je dirais quand même peut-être quelque chose de l'homme après, parce que j'ai parlé de l'homme politique, je n'ai pas parlé du tout de l'homme charnel, existentiel, etc.
Mauvais caractère.
Et du caractère. Mais voilà, pour en finir avec cet itinéraire politique qui est formateur, qui est l'école des événements pour Ferry. Il y a l'école de la famille qui lui a instillé, j'ai envie de dire, le virus républicain, mais il y a aussi l'école des événements qui lui montre l'immense difficulté de quoi ? Ben de faire durer un régime en France, et de faire durer en particulier le régime républicain. Donc c'est l'obsession de Ferry. Et je crois qu'on comprend tout le parcours politique de Ferry si on garde en tête que c'est cette affaire de durée, comment faire durer les choses, qui explique à la fois ses préoccupations fondamentales, l'école, etc., et qui explique aussi, en même temps, ces compromis, ce qu'on a pu appeler ces timidités ou ces frilosités ou ces reculs, l'essentiel étant de ne pas compromettre ce qui est acquis. Et ça, on aura le temps d'y revenir. Alors, quant à l'homme privé, c'est un homme qui a laissé de lui une image d'une grande austérité, d'abord physique, c'est un homme peu séduisant, figure austère avec des grands favoris, bref, apparemment peu séduisant. En même temps, c'est un héros romantique, très bizarrement. Ce sur quoi je ne me suis pas beaucoup attardée dans le livre, parce que ce n'était pas l'objet du livre, mais qui a deux amours dans sa vie. Le premier amour, c'est Blandine Olivier, la femme de son ami Émile Olivier, et qui est dont il fait un portrait idyllique, belle, intelligente, cultivée. Elle l'initie à la musique, aux arts, etc. Bref, il est follement amoureux d'elle, au point que, quand elle meurt, il fait une crise. Il ne s'est probablement jamais rien passé entre eux. Et d'ailleurs, il part en voyage de consolation, quand elle meurt, avec le mari. Ils partent tous les deux en Italie se consoler, je regrette, c'est mon côté midinette hein, qui ressort malheureusement, mais je trouve qu'on manque, j'aimerais beaucoup savoir ce que ces deux hommes pouvaient se dire, parce qu'Émile Olivier ne pouvait pas ignorer que Ferry était amoureux fou de Blandine. Et comment se sont-ils entre-consolés ? On aimerait écouter leur dialogue. Enfin, moi, j'aimerais. Parce que quand elle meurt, il dit que plus rien n'a de saveur ni de goût pour lui, qu'il ne sait pas comment il s'en sortira, qu'il envie les chrétiens qui, eux, du moins, peuvent croire aux retrouvailles dans la vie éternelle, et que là, il ne peut pas, et que ça lui manque énormément, qu'il donnerait une fortune pour pouvoir le croire. Et enfin, il est absolument défait, il écrit des lettres déchirantes à son frère Charles, mais voilà, on aimerait bien avoir le dialogue des deux hommes en Italie, essayant de se consoler dans les ruines romaines. Bon, bref. Première, héros romantique en ce sens. Et puis deuxième amour de sa vie, le dernier et celui qu'il réussira, avec qu'il rencontre sur le tard, après mille aventures, mais des aventures bon sang lendemain avec les grisettes du Quartier Latin, qui rappellent tout à fait le début des Misérables avec la séduction de Fantine par Tholomyès, etc. C'est tout à fait ça. Et donc, il rencontre une jeune personne de 24 ans, d'une famille républicaine et protestante. Il lui fait une cour éperdue, sans aucun espoir, parce qu'il a, d'abord, il est un barbon pour elle, il a 20 ans de plus qu'elle. Et elle, oui, elle est très, très réticente. Il finit par emporter l'affaire. Avec des lettres, j'ai tout misé sur cette carte. Si je perds cette carte, je suis perdue. Là aussi, des lettres avec une sorte de, oui, d'extraordinaire élan romantique. Et la merveille, c'est que non seulement la jeune fille l'accepte, mais que le ménage, le couple qu'ils forment, va être un de ces couples merveilleux qui font rêver tout le monde. Où la passion est irriguée par l'amitié, et est tellement irriguée par l'amitié qu'elle dure, et qu'elle dure avec presque l'éclat des premiers jours. Ceci pour corriger l'image d'un Ferry extrêmement austère. Il avait dit un jour à Gambetta, je crois, que ses roses poussaient à l'intérieur, et quand on lit sa correspondance, on se rend compte qu'en effet, c'était quelqu'un qui était antinomique de l'image qu'il donnait de lui à l'extérieur. Alors voilà pour l'homme.
Beau mariage, Monsieur Receveur.
Ah, superbe mariage.
Très
beau mariage. D'ailleurs, mariage, diront ses ennemis, quand même un mariage tout à fait, comment dire, un beau mariage aussi au sens acquisitif du terme. Parce que la jeune femme a beau être républicaine et libre penseuse, ce qu'il dit d'ailleurs, c'est touchant, parce qu'il écrit à ses amis qu'il va se marier, et au lieu de dire « elle est blonde aux yeux noirs » ou que sais-je, il dit « elle est républicaine et libre penseuse ». Ce qui est quand même une manière de présenter la fiancée qui est un peu surprenante. Mais voilà, mariage dans une famille tout à fait aisée, plus qu'aisée, qui lui fait accéder à une autre catégorie sociale. Et le salon de Madame Ferry va être un de ces salons républicains fréquentés, bien qu'elle ait eu, elle, peu d'appétence pour la vie mondaine, mais que, par force, il la lui a fait et tout de même assumer. Voilà pour ce qui concerne l'homme. Là aussi, c'est un personnage contradictoire. Et mal connu parce qu'on répète toujours cette formule « mes roses poussent en dedans », mais peu de gens ont lu la correspondance. Et la correspondance avec son frère, l'amitié entre les deux frères est aussi totalement exemplaire. Et donc avec son frère Charles, il dit tout ce qu'il a sur le cœur et de la manière la plus exaltée qui soit.
Vous parliez tout à l'heure de ses lectures de contes. Quelle était sa position vis-à-vis du positivisme ?
Oh, ça, c'est un des problèmes les plus compliqués qui soit, parce que et là, je me sens en désaccord, oui, pas total, mais enfin en lourd désaccord avec les biographes de Ferry.
Oui.
Parce que souvent, Ferry a beaucoup lu Auguste Comte. Et souvent, on présente l'œuvre de Ferry comme une sorte d'application des principes d'Auguste Comte. On dit par exemple que son œuvre scolaire est tout entière imprégnée de la ferveur positiviste, de la croyance dans la science, etc. Or, à mon avis, rien n'est plus léger que cette présentation. Pourquoi ? Qu'est-ce que Ferry demande au comtisme ? Ce qu'il y a de fondamental dans le comtisme, me semble-t-il, c'est une vision de l'évolution de l'humanité. L'humanité progresse par séquence, passe de l'âge métaphysique à l'âge critique, à l'âge positif, par des étapes. Chacune de ces étapes, quand on la considère, peut être tout à fait médiocre ou comment dire mauvaise d'un point de vue absolu, mais chaque époque n'est que ce qu'elle peut être au moment où on la considère. Ce qui veut dire qu'une époque médiocre est quand même un bien dans l'évolution globale de l'humanité, puisque, toute médiocre qu'elle soit, elle représente un progrès par rapport à la période antérieure et elle annonce d'une certaine façon la période postérieure qui en sortira meilleure, plus aguerrie, etc. Autrement dit, une vision de l'histoire telle que celle de Comte oblige à considérer que même le mal dans une époque donnée est d'une certaine manière un bien. C'est tout le bien possible à l'époque considérée, puisque personne ne peut bousculer les étapes de l'évolution de l'humanité. Or, ce type de lecture est un immense réconfort pour des jeunes gens qui viennent de vivre le désenchantement de 48 et viennent de subir la douche glaciale d'un empire qui succède à une république. Parce que c'est un baume sur le désenchantement intellectuel de ces jeunes gens. Parce que ça leur dit, ben oui, vous vivez une sale période, ou une période détestable, ou en tout cas, vous vivez des désillusions et des déceptions, mais mettez-vous bien dans la tête que c'est la seule possibilité, c'est la seule chance que vous offre l'histoire, et il faut que vous considériez cette possibilité comme malgré tout, allant vers un progrès futur. Donc, c'est une manière de ne pas désespérer Billancourt, si j'ose dire. Oui, on vit une période lamentable, la République n'a pas duré, mais enfin, quelque chose est en train de se préparer obscurément dans les entrailles de l'histoire et finira par déboucher sur un progrès. Donc c'est éminemment consolant. Et ça explique, je trouve, que Ferry ait surtout été un adorateur de Comte pendant la période de l'Empire. C'est-à-dire, il n'y a pas grand-chose à faire que s'informer, se préparer pour des étapes ultérieures, en étudiant, etc. Mais on n'a pas besoin... l'intervention, ce n'est pas la peine d'intervenir, puisque c'est la loi de l'époque. En revanche, quand la République est aux Républicains, c'est-à-dire quand l'Assemblée et le Sénat sont passés aux mains des Républicains en 1879, là, il faut agir, il faut intervenir. Du coup, le comtisme n'est plus une philosophie aussi utile à fréquenter. Et par ailleurs, tout ce que fait Ferry est d'une certaine manière contradictoire de l'enseignement de Comte. Parce que Comte, par exemple, tient la liberté pour... comment dire ? Il n'est pas fou de la liberté. La liberté est utile pour Comte dans quelles époques ? Dans les époques critiques. Elle est utile pour démolir le régime insatisfaisant. Mais si on est dans l'âge positif, la liberté ne sert plus à grand-chose. Or, Ferry met son œuvre sous la bannière de la liberté. Bon, l'éloge du suffrage universel... Comte n'a aucun respect pour le suffrage universel. Or, Jules Ferry, pourtant échaudé par le suffrage universel qui a porté un empereur, le seul nom qui parlait au peuple français, bon, qui a porté Napoléon au pouvoir, Jules Ferry vit cette expérience douloureuse, ça fait aussi partie du désenchantement dont j'ai parlé, expérience douloureuse des républicains qui avaient cru au suffrage universel et qui s'aperçoivent que le suffrage universel peut être dévoyé et qu'il est même très facilement dévoyé. Et donc, il maintient l'éloge du suffrage universel que Comte avait en piètre estime. Par ailleurs, Ferry est un adorateur de la Constituante. Dans l'héritage de 89, ce qu'il aime, c'est la Grande Assemblée parlementaire que Comte avait en grand mépris. Comte n'avait de respect que pour l'épisode dictatorial de la Révolution française, c'est-à-dire 1793. Donc, c'est difficile de faire de Ferry un comtiste cohérent, et du reste, c'est si vrai que les comtistes eux-mêmes ont mis beaucoup de temps à accepter son œuvre, et en particulier l'obligation scolaire. Ils ont trouvé que l'obligation scolaire était quelque chose de totalement scandaleux. Donc, moi, j'ai énormément de mal, et pourtant, il y a quantité de livres, c'est même la majorité des livres sur Ferry, déclinent comme une évidence la ferveur positiviste de Ferry. Moi, j'ai le sentiment que le comtisme est pour Ferry une philosophie par gros temps, une philosophie pour époque dure à traverser, parce que ça donne quand même l'espoir que malgré tout, les choses sont en marche, mais qu'il l'abandonne ensuite. Et qu'au fond, entre l'héritage des Lumières, qui est l'héritage de la liberté, l'héritage libéral, disons, et l'héritage du comtisme, Ferry, chaque fois qu'il faut trancher dans un problème important, tranche du côté de la liberté. Donc là-dessus, je suis en contradiction avec la plupart des ferristes. C'est comme ça.
On va parler de l'œuvre.
Oui.
Ou des œuvres.
Des œuvres.
Parce que... il faut quand même prendre conscience que cet homme, ministre de l'Instruction publique, 47 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand on regarde nos hommes politiques avec des âges avancés, à 47 ans, c'était quand même une époque, c'est pas tout à fait ordinaire. Donc, il est ministre de l'Instruction publique et on débute.
Il débute pas absolument parce que il avait dit dès 1870 et avant la guerre, en mars 70, je crois, à moins que ce soit en avril, mais enfin peu importe. En tout cas, c'est avant la déclaration folle de guerre à la Prusse. Il avait fait un discours devant une association pour l'éducation. J'ai oublié son nom exact. Qui tient une réunion à Paris, à la salle Molière, où il parle, Ferry, et où il déclare, donc on est encore en 70, que s'il peut faire une œuvre dans sa vie et s'il peut attacher son nom à une œuvre, ce sera à l'éducation. On voit bien la cohérence. Le suffrage universel vient de trahir les espoirs que l'on a mis en lui. Pourquoi ? La réponse la plus simple est que le peuple, qui dispose désormais de cet instrument merveilleux qu'est le suffrage, l'a utilisé en fonction du nom qui parlait à sa mémoire, c'est-à-dire de la légende. Et c'est encore la légende napoléonienne, la seule qui existait dans la paysannerie française, le seul souvenir politique qui existait dans la paysannerie française qui a déterminé l'élection. Donc, l'urgence... c'est de remplacer la légende par l'histoire et donc de donner à ce peuple français de quoi apprécier de façon lucide les événements de son histoire. Donc il faut, l'école devient un instrument absolument fondamental de la recomposition du pays et de l'installation du pays dans un régime qui enfin, c'est toujours le même thème, dure. Donc, ce discours à la salle Molière est très important. D'abord, il est, habité par les lectures de Ferry, par des références à l'éducation américaine, par ce qui se passe dans les pays étrangers, très informé. Et il se termine, et ça c'est une chose aussi très importante, par un dithyrambe pour l'éducation des filles. Et quelque chose qui est un peu étonnant, parce que tout le discours est tout entier orienté vers ces dernières pages sur l'éducation des filles qu'il estime être fondamentale. Pourquoi ? Ben parce que pour Ferry, le drame de la France, qui produit toutes les catastrophes que j'ai brièvement évoquées, le drame de la France, c'est d'être politiquement divisé. Il y a une ordonnance que... Il y a un diagnostic de Ferry et une ordonnance. Le diagnostic de Ferry sur les malheurs français, c'est que la division des Français est une division fondamentalement politique. D'ailleurs, c'est un diagnostic qui peut encore aujourd'hui nous faire réfléchir. Pour Ferry, c'est tout à fait étrange pour quelqu'un qui vient de traverser la Commune. Les divisions de classe ne sont pas les divisions majeures des Français. Ce ne sont pas les divisions de classe qui fendent la France en deux. Étrange comme diagnostic. Ce ne sont pas non plus, autre singularité de Ferry, les différences régionales ou ethnoculturelles, à ce moment-là, répandues dans les régions françaises, dont certaines ne parlent pas français encore. Ferry est tout à fait aveugle, il est aveugle à la division sociale, ou largement aveugle à la division sociale, et largement aveugle aussi aux différences régionales. Il traverse la France quand il mène la bataille contre les jésuites, la célèbre bataille de l'article 7. Il voyage à travers la France et il écrit à sa femme des lettres où il dit « C'est merveilleux, la France est faite d'une seule et même étoffe. De Bordeaux à Épinal, les différences sont invisibles sur le sol français et il n'y a au fond qu'au sud de la Garonne qu'il y a là une petite frange exotique de la France, une quasi-Espagne, exubérante, pas facilement maîtrisable, et c'est le seul endroit où on a le sentiment d'être un peu ailleurs qu'en France. Pour le reste, la France est d'un seul et même tenant. Étrange quand même, dans un pays qui, à l'époque encore, il suffit de lire le gros livre de Jürgen Weber sur la fin des terroirs, qui est un livre comble d'anecdotes sur le paysan qui ne sait pas dire d'où il est, sinon ben, je suis de Pujols, mais où est Pujols, je ne sais pas. Du reste, je n'ai qu'à penser à ma grand-mère bretonne qui m'avait appris les chansons émouvantes de l'orpheline d'Alsace qui refuse l'aumône de l'officier allemand, mais qui aurait été totalement incapable de placer Strasbourg sur la carte, et à qui, si on avait demandé d'où elle était, aurait dit « Je suis de l'Anilis et pas de l'Aisne-Vin, à 15 km de là, où on est déjà à l'étranger, quasiment. Bon. » Bref, l'ouvrage de Jürgen Weber sur la France de cette époque est un ouvrage où on voit que un ouvrage d'une France hérissée de particularités, d'ignorance réciproque, etc. Bon. Ferry voit rien de tout ça. Pour lui, la France, tient ensemble. Il ne le voit pas. En revanche, le drame français, pour lui, c'est la profonde division politique des Français. Profonde division qui est née de la Révolution française à partir de 89. Il y a deux France en une. Et les Français qui aiment la Révolution ne peuvent aimer l'Ancien Régime. Et réciproquement, ceux qui aiment l'Ancien Régime ne peuvent aimer la Révolution. Et ce sont ces deux peuples qu'il faut remettre ensemble. Obsession de Ferry. Obsession de Ferry avec d'ailleurs beaucoup de conséquences, parce que pourquoi est-ce que ces deux France ne peuvent pas se rejoindre, alors qu'après tout, on pourrait montrer, d'ailleurs c'est ce que l'école publique va montrer aux petits Français, on pourrait montrer que quelque chose dans l'Ancien Régime travaillait sourdement à l'avènement républicain, qu'après tout, les bons rois, les grands ministres ont œuvré eux aussi à l'unité française. On ne le peut pas. Pourquoi ? Parce que la République en France est associée à la terreur et à l'épisode sanglant de la Révolution française. Et si je devais dire quelle est l'immense réussite intellectuelle et politique de Ferry, je dirais que la réussite de Ferry, c'est d'avoir découplé la Révolution de la terreur et la République de la et d'avoir réconcilié du coup la République avec la Révolution. D'avoir fait au fond de la République une révolution installée, non violente, pacifique. Mais c'était un pari incroyable, puisque République était toujours associée dans l'esprit des Français aux exactions de la terreur, voire à la guerre civile. Donc mettre fin à cette guerre civile entre les Français était l'objectif de Ferry. Je suis toujours menacée par la digression. J'ai oublié en chemin que je voulais vous parler des femmes et de la conclusion de Ferry sur les femmes. J'y viens. Parce que pour Ferry, cette fracture politique ne passe pas seulement entre les deux jeunesses françaises, l'une élevée dans les écoles de l'État et l'autre élevée dans les écoles catholiques, et qui, reproduisent la vieille division Ancien Régime Révolution, mais la fracture, et c'est beaucoup plus grave, passe à l'intérieur des couples français eux-mêmes. Elle divise les hommes et les femmes. Les hommes qui, pour la plupart d'entre eux, sont ralliés ou ralliables au régime républicain, et les femmes qui apportent un secret et persistant appui à l'Ancien Régime, en particulier parce qu'elles sont encore sous l'emprise de l'Église et dans la main des prêtres. C'est un vieux thème républicain qui court de Michelet à Quinet, où le prêtre est, comment dire, portraituré en ennemi du mari, en rival du mari. Le prêtre est en tiers dans les ménages français parce qu'à travers le confessionnal, il a un œil, y compris dans la couche conjugale. C'est le vieux thème républicain. Donc, réparer cette fracture dans le couple républicain, fracture ruineuse, puisque ce sont les femmes qui élèvent les enfants, et que donc elles tiennent, non seulement elles tiennent le mari, elles le tiennent au moins différé dans les périodes où la passion parle encore, mais elles tiennent plus profondément et plus durablement, elles tiennent l'enfant. Donc ce sont ces femmes qu'il faut, il faut en faire des républicaines. Là aussi, ça passe évidemment par l'école, et ça passe, ce qui est quand même extraordinaire à l'époque et visionnaire de la part de Ferry, ça passe par un enseignement symétrique entre l'école des filles et l'école des garçons, à l'époque séparée toujours par le mur qui sépare décemment les deux écoles, mais de part et d'autre de ce mur, on enseigne aux petites Françaises aussi l'histoire de France, on enseigne les sciences naturelles, on donne le même enseignement civique, et elles vont, comme leurs frères et leurs cousins, au chef-lieu passer le même certificat d'études avec les mêmes épreuves. Le coup de tonnerre de l'enseignement de Ferry, c'est là qu'il est, à mon sens. C'est dans cette symétrisation très largement accomplie de l'enseignement féminin et de l'enseignement masculin. Alors, on pourrait dire qu'aujourd'hui, parfois, il y a quelques voix féministes ultra, féministes intégristes, je dirais, qui s'élèvent contre Ferry, qui ont imaginé de faire un nouveau procès à Ferry, après tous ceux qu'il a déjà eu dans l'existence, en disant qu'il avait pensé l'éducation des filles comme relégation dans l'univers domestique. Il avait certes mis les filles à l'école, mais pour les préparer à la vie obscure du foyer et au fond les reléguer auprès des fourneaux et des berceaux.
Les fameux travaux d'aiguille.
Comme à l'accoutumée, parce qu'il avait maintenu des travaux d'aiguille à l'école des filles et d'ailleurs de la menuiserie et du jardinage à l'école des garçons. Alors pour moi, le procès est grotesque, absurde, parce qu'il met l'accent sur les timidités, je les mets entre guillemets, sur les lenteurs, peut-être, les timidités, mais c'est absurde parce que ça ne tient aucun compte du contexte de l'époque et surtout ça met l'accent sur les petits pas de Ferry et ça ne voit même pas l'ampleur considérable du mouvement, la révolution qu'instaure Ferry. Et par ailleurs, sur le problème des destinations de la femme, il est vrai que Ferry ne voit pas encore la possibilité d'une symétrie absolue entre les emplois masculins et les emplois féminins. On est encore très très loin de cela. Mais il ne les perd pas de vue parce que dans la discussion à la Chambre, véhémente en ce qui concerne l'éducation des filles, c'est là qu'elle atteint, je crois, son acmé. Le parti conservateur lui oppose, lui dit « Mais attendez, vous mettez les filles à l'école, mais la place des filles n'est pas à l'école. Ce sont les mères qui élèvent les filles. C'est aux mères d'élever leurs filles et non pas aux agents de l'État. » Et Ferry répond « Vous oubliez qu'il y a des filles qui n'ont pas de mère. » Et là, je crois que ce n'est pas trop peut-être d'entendre derrière quelque chose comme la tristesse tenace d'un orphelin, car Ferry avait perdu sa mère très tôt.
Très tôt.
Et il y a des filles qui n'ont pas de mère, ou dit-il, il y a des mères qui doivent, la formule est étonnante, porter le poids du jour. Ce qui veut dire porter le poids du jour, c'est-à-dire travailler pour élever leurs enfants. Et donc, il y a déjà chez Ferry le sentiment que l'examen, le certificat d'études le même, des deux côtés de la barrière, que l'examen, le modeste certificat d'études, mais qui est quand même un examen, que l'examen est la porte de l'emploi. Et donc, que c'est cela qui, à terme, va symétriser les destins féminins et masculins. Il ne l'envisage pas, sûrement, encore dans sa totalité, il est très loin de l'imaginer, mais il en donne les moyens. Et c'est pourquoi je trouve que cet énième procès fait à Ferry est franchement celui-là scandaleux. Et d'autre part, j'ajoute que pour l'enseignement secondaire, c'est aussi à lui qu'on doit les lycées de filles. Mais ces lycées de filles, il avait souhaité, comme son ministre à l'époque, c'est Camissé qui est ministre, et lui est président du conseil, il avait souhaité qu'on maintînt le grec et le latin, y compris dans les lycées de jeunes filles. Tollé, évidemment.
Évidemment.
Tollé sur les bancs de la chambre, du grec et du latin pour des femmes, etc. Et là-dessus, il est vrai que Camissé et Ferry reculent et qu'ils maintiennent, enfin, ils donnent un enseignement des sciences un peu allégé par rapport à celui des garçons, pas d'humanité. En revanche, langue vivante et enseignement du français. Il y a d'ailleurs aujourd'hui des gens qui reprochent à Ferry de n'avoir pas été assez loin dans cette voie et de n'avoir pas fait un enseignement totalement original pour les filles, parce qu'après tout, il y avait là quelque chose qui était prémonitoire, un enseignement de langue vivante. Et il y avait aussi du droit usuel, ce qui était quand même aussi très intéressant, de donner aux femmes des notions d'économie domestique et de droit usuel. Je trouve qu'il y avait là quelque chose d'intéressant. Ferry avait compris que le droit est d'une certaine manière l'imagination du malheur, et que donc le droit peut être une arme pour par exemple, des femmes qui restent isolées dans la vie, etc. Bon, bref. Donc, je ne sais plus ce que je disais.
À propos des filles. Donc, en fait, nous arrivons à la mise en place de l'obligation scolaire.
Oui.
Qui finalement existait déjà un peu depuis Guizot.
Oui.
Et l'école gratuite.
Oui.
Gratuite, mais surtout la laïcité.
Oui, c'est le point.
Ça, c'est la nouveauté.
Oui, parce que l'obligation et la gratuité, en ce qui concerne l'obligation et la gratuité, Ferry complète. Il bouge les trous de la législation existante plus qu'il ne l'invente, et du reste il rend constamment hommage à ses prédécesseurs, y compris à Guizot. Et il voit bien que là il est en train de poursuivre une œuvre séculaire qui est en marche. Cela dit, ça n'était pas rien malgré tout de boucher ces trous quand on entend le tollé qui accompagne la loi sur la gratuité. Il se trouve des gens à la chambre pour se lever et dire: vous voulez la gratuité, mais alors aucun père de famille ne pourra plus dire à son gamin « Vois ce que tu me coûtes ».
Exact.
Ce qui, aujourd'hui, pour nous, est inécoutable, mais qui, alors, paraît plein de...
Surtout qu'à l'époque, les gosses étaient une main-d'œuvre d'appoint.
Ben, bien sûr. Mais ce qui est... Bon, bref. Donc, même ça, même la gratuité, même si elle avait commencé avec, en particulier avec Duruy, et même l'obligation, ça n'est pas rien. Mais c'est vrai que là-dessus, Ferry n'est pas un précurseur. En revanche, là où il est un précurseur, c'est dans l'ordre de la laïcité. Ça veut dire quoi, la laïcité, pour Ferry? Ça veut dire qu'il n'y aura aucun enseignement dogmatique, quel qu'il soit, à l'école. Ça n'est pas ce que l'on voit dit souvent, c'est-à-dire une simple arme de guerre contre l'Église catholique. En réalité, c'est aussi une arme de guerre comme contre tout enseignement, quel qu'il soit, qui deviendrait un dogme. Ferry serait également hostile à une armée d'instituteurs vue comme autant de vicaires savoyards. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'instituteur, qui était souvent alors le répétiteur du catéchisme, qui était l'adjoint du prêtre, chargé de faire répéter le catéchisme à l'école, que l'instituteur ne sera plus le répétiteur d'aucun catéchisme, quel qu'il soit. Et là, du reste, Ferry est dans le droit fil d'une philosophie que j'appellerais girondine, qui est celle de Vergniaud quand il s'oppose à Robespierre et à la fête de l'être suprême, et où Vergniaud est tout frein serré contre cette idée de fête de l'être suprême, où l'État impose un culte, même si c'est à une divinité un peu floconneuse, un peu brumeuse, c'est tout de même l'imposition d'un culte. Et Vergniaud dit, notre différence avec les législateurs de l'Antiquité, c'était que les législateurs avaient besoin de faire intervenir un dieu entre le peuple et eux, et nous n'avons besoin, par rapport au peuple, que de la discussion et de la délibération collective. Mais nous n'avons besoin de rien et pas d'un être suprême. Là, Ferry est exactement dans la droite ligne des Girondins. Aucun enseignement, quel qu'il soit, dogmatique, et c'est d'ailleurs ce qui lui fait écrire cette lettre magnifique à l'instituteur de village, où il s'adresse au plus chétif instituteur du plus chétif village de France, en lui donnant monsieur du monsieur l'instituteur, et en lui disant que la règle d'or à suivre dans son enseignement, c'est d'imaginer un père de famille assis au dernier rang de sa classe, et de se dire que si le propos qu'il tient est de nature à blesser en quoi que ce soit la conscience, les opinions, les sentiments de ce brave homme, alors il doit se taire et se garder de mettre le pied sur ce terrain miné. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on pourrait discuter, cette abstention absolue de l'instituteur. Il y a quelqu'un qui a discuté ce... Aujourd'hui, c'est comment dire, unanimement admiré. On cite partout cette lettre admirable de Jules Ferry. Bon. En même temps, il y a un très beau texte de Jaurès qui met des bémols sur cette admiration pour la neutralité, admiration pour la neutralité absolue de l'instituteur. Jaurès dit, il ne faudrait quand même pas que cette règle nous abstienne de poser en classe un problème intéressant. Il faudrait se demander si cette neutralité n'est pas aussi une sorte de frilosité ou de tiédeur. Et c'est d'ailleurs un texte de Jaurès qu'Edgar Morin a repris assez récemment, en disant qu'au fond, la vraie laïcité, c'est de tout poser en termes de questions et non de réponses. Mais qu'à condition de s'en tenir au questionnement, même les questions brûlantes peuvent être abordées en classe. Cela dit, imaginez dans notre société du soupçon et du dénigrement généralisé, je ne suis pas absolument sûre que mettre en pratique ce qui, à mon avis, à juste titre, disent Edgar Morin et Jean Jaurès, je ne suis pas absolument sûre que ça rencontre l'adhésion de nos contemporains. Digression.
Une chose dont on parle rarement, c'est cette loi de 1884, les lois municipales. Parlez-nous de ça.
Oui, il y a une des lois les méconnues de Ferry, qui est une des lois auxquelles il tient le plus, c'est la loi de l'élection des maires. Alors, pourquoi il y tient ? Pour lui, c'est probablement sa loi fondamentale. Et du reste, un observateur aussi perspicace que Thibaudet le reconnaît. Il dit, la vraie réforme de Ferry, c'est celle-là. Ça vient de l'Empire, parce que Ferry s'est fait connaître par un pamphlet contre les pratiques électorales désastreuses du Second Empire, où il y a un bulletin officiel et où il y a toutes les mesures de coercition possibles et imaginables mises en pratique pour que l'élection se fasse dans le sens voulu par le pouvoir. Donc il s'est fait connaître par ça, la lutte électorale, le texte sur la lutte électorale en France. Donc c'est quelque chose qui vient de loin chez lui, et donc il souhaite que le maire soit élu par la commune au lieu d'être reçu de l'autorité préfectorale et aussi d'obéir à une loi non écrite, mais d'autant plus impérieuse, qui désignait pour la magistrature, cette magistrature modeste mais importante dans une commune, qui désignait l'homme le plus important de la commune, c'est-à-dire le gros propriétaire, le gros notable, etc. Et donc, pour Ferry, cette élection des maires, elle doit pouvoir, selon lui, venir à bout des défauts. Défaut est mal choisi, je ne trouve pas mon mot, de la vie politique française, qui est l'ankylose politique des Français entre deux élections et l'atonie de la vie civique au village et l'engourdissement des Français en dehors des périodes électorales où ça se réanime un peu pour se réensommeiller immédiatement après. Et pour Ferry, l'idée que cette magistrature municipale peut être briguée par beaucoup d'habitants de la commune, parce que c'est une magistrature, modeste, mais malgré tout une magistrature honorée, donc qui peut être convoitée, qui peut être l'objet d'une concurrence, d'une saine émulation. Pour lui, c'est le moyen de faire que la vie politique française ressemble à cette vie politique anglaise que Ferry admire, parce qu'il pense qu'elle est animée par le club, par le meeting, par la libre discussion, par la libre circulation de la presse, etc. Et donc, la loi municipale est en effet quelque chose qui est d'ailleurs contemporain de l'éclosion des mairies dans tous les villages français et qui marque profondément notre vie politique jusqu'à aujourd'hui.
D'ailleurs, vous citez Thibaudet qui dit « Aucun gouvernement ne s'est dessaisi d'une pareille part du pouvoir électoral et administratif. »
Oui, c'est vrai. Il y avait une sorte de confiance dans un pouvoir qui, enfin, en France, se montrait d'en bas et ne serait pas simplement reçu de l'autorité jacobine. Bon, chose qui continue à peser sur notre existence. Il suffit de songer à ce débat, ce fameux débat sur l'identité nationale, qui était d'ailleurs en lui-même un débat que je n'ai pas trouvé inintéressant du tout. Enfin, il a été diabolisé immédiatement, mais il n'est pas inintéressant de nous demander ce qui nous fait tenir ensemble comme nation. Et donc, c'était un débat qui est, à mon avis, un débat qui continue d'être intéressant. Cela étant, ce qui, à mon sens, aussi l'a plombé, c'est que ce débat est descendu des préfectures aux sous-préfectures vers les villages, selon un schéma français extrêmement connu, et qui, du coup, dénature immédiatement le processus.
Ensuite, on a la liberté de la presse.
Oui.
Qui est quand même.
Oui, la liberté syndicale.
La liberté syndicale, oui. La liberté de réunion,
oui.
Qui n'existait pas.
Tout cela, ce sont nos libertés publiques et nous les devons à Ferry, tout en ignorant que nous les devons à Ferry.
On va parler, en dehors du fait où il parle toujours de refaire la France, on va parler de Ferry et les terres lointaines.
Oui. Sujet de discorde. Ah oui, parce que l'œuvre coloniale de Ferry est évidemment le versant aujourd'hui qui est le versant sombre de l'œuvre, au point que notre président de la République, le jour de son investiture, quand il a mis son action sous la bannière de Ferry et sous la statue du reste de Jules Ferry aux Tuileries, le président de la République a dit, après avoir fait l'éloge du Ferry scolaire, si j'ose dire, Il a dit qu'il n'ignorait pas, évidemment, qu'il savait très bien qu'à ce portrait, on pouvait apporter des correctifs ou des bémols, et qu'il y avait toute une partie de l'œuvre de Ferry qui était beaucoup moins honorable ou beaucoup moins écoutable aujourd'hui. Enfin, ça n'était d'ailleurs pas ses termes, mais il a simplement dit qu'il n'ignorait pas cet autre versant de la personnalité, pas de la personnalité, de l'œuvre de Ferry. Mais en réalité, le problème pour moi, c'est, ça me gêne cette histoire, parce que c'est le même versant. C'est-à-dire que pour Ferry, l'œuvre coloniale n'est pas séparable de l'œuvre scolaire. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est pas absolument la même chose, mais il y a quand même un fil commun qui est le fait qu'avec des petits paysans français, qui souvent ne parlent pas encore français du reste, il faut faire des petits républicains. Et de la même manière, avec des petits indigènes, il faut faire des républicains civilisés.
C'est la mission de la civilisation.
C'est la mission de la civilisation. Alors, ce sont des mots qui nous font broncher aujourd'hui, et surtout quand nous entendons Ferry déclarer qu'il faut faire passer les peuples barbares à la civilisation, qu'il y a des races inférieures et des races supérieures, et que le problème est effectivement de faire accéder à ces races supérieures dont nous sommes et dont nous avons le sentiment inné d'être.
Plus personne n'oserait dire des choses pareilles.
Plus personne n'oserait dire des choses pareilles. Alors là, il y a quand même beaucoup de correctifs à apporter. D'abord, le mot « race ». Aujourd'hui, le mot « race », après les tragédies du XXe siècle, porte pour nous le poids de l'infamie. Donc, il est inécoutable. Mais le mot « race » est d'usage absolument courant. Du reste, j'ai fait une émission samedi dernier avec Alain Finkielkraut, et Alain Finkielkraut rappelait que quand l'instituteur d'Albert Camus apprend, Monsieur Germain, le merveilleux Monsieur Germain, apprend que son élève Albert Camus a choisi le bon camp, qu'il a été résistant, il dit à Camus, je savais bien que tu étais de bonne race. Et Alain Finkielkraut faisait remarquer que race, évidemment, dans ce cas, n'a pas le sens que nous lui donnons aujourd'hui. Autre remarque sur inférieur et supérieur. Inférieur et supérieur, c'est inécoutable et insupportable si nous essentialisons les deux termes. C'est-à-dire si l'inférieur reste de toute éternité inférieur et si le supérieur campe pour l'éternité aussi sur son socle. Mais pour Ferry, inférieur et supérieur, ce sont des étapes dans un procès de civilisation. Et ce procès de civilisation, il passe par quoi ? Ben, selon un schéma qui est classique depuis Montesquieu, les sociétés évoluent de la sauvagerie à la barbarie, puis à la civilisation. Sauvage et barbare, ce ne sont pas du tout les mêmes étapes. Le sauvage désigne, dans cette philosophie politique classique, des tribus dispersées, sans aucune organisation politique encore, qui ne se donnent pas de chef, qui ne se préoccupent pas de se donner un gouvernement, qui vivent éparpillés. Bref, c'est un étage inférieur, dirait-il, mais Montesquieu aussi le dirait, de la civilisation. De la sauvagerie, on passe à la barbarie. Et la barbarie est déjà une étape vers la civilisation. C'est pour ça que devant le mot « peuple barbare », nous n'avons pas à nous crisper en nous disant que c'est un terme insupportable, parce que les barbares, j'ai envie de dire, sont déjà entrés dans l'histoire. Bon, là, je plagie un peu le discours d'Henri Guénaud. L'entrée dans l'histoire, c'est l'entrée des peuples barbares. Parce que, pourquoi ? Parce que les peuples barbares connaissent la propriété, que les peuples barbares se donnent un chef. Bref, c'est une étape vers la civilisation. C'est tellement une étape, le mot barbare, je suis en train de défendre Ferry de l'emploi du mot barbare, c'est tellement une étape que lorsque Ferry juge l'enseignement des Béates de la Haute-Loire, qui apprennent aux filles, dans des écoles encore très rudimentaires, un peu à lire, mais surtout à faire de la dentelle, ces écoles qui sont des sortes d'ouvroirs Que Ferry, d'ailleurs, y rend hommage à ces béates, parce qu'après tout, elles enseignent quand même, il y a quelques petites filles qui peut-être sortiront de là, sachant faire de la dentelle, mais aussi sachant lire. Et Ferry dit à la tribune, mais pour moi, ce sont surtout des ouvroirs, si vous voulez appeler cela des écoles, admettez que ce sont des écoles barbares. Et donc, là, on voit très bien quel est l'usage du mot barbare, c'est l'avant de la civilisation, mais quelque chose qui déjà promet ou ouvre la civilisation. Tout cela pour essayer de disculper Ferry de ces termes insupportables aujourd'hui, race inférieure, race supérieure. Cela étant, je ne vais pas cacher pour autant que Ferry a été évidemment un colonisateur déterminé, très, très orgueilleux de l'être, très conscient de l'être, et défendant son œuvre pour des raisons qui sont pour lui des raisons liées à la nécessité de donner à la France son rang parmi les nations européennes, un rang qui est évidemment incroyablement affaibli, puisque la France a été cruellement défaite, que l'armée est démantelée, que toutes les puissances européennes sont occupées à se tailler des empires coloniaux, et que l'abstention de la France dans la conquête de ses marchés, sans doute, mais aussi de ses capacités de rayonnement, l'abstention de la France voudrait dire le consentement à la décadence et au déclin. Et Ferry en est absolument persuadé, conscient, et du coup, il est amené à poursuivre cette œuvre colonisatrice en se donnant, je dois le dire aussi, toutes les facilités de la ruse. Ferry est toujours enclin à demander pour ses expéditions coloniales
par petits morceaux,
petits bouts, petits crédits, petits envois de troupes. Il a tendance toujours à donner les chiffres inférieurs, quitte à les grossir par la suite. Donc l'œuvre colonisatrice a de fait été menée avec fermeté et bonne conscience. Cela étant, je renacle à donner à ce colonisateur l'épithète de colonialiste. Si on donne au terme colonialiste la teinture infamante qu'il a de nos jours, pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que Ferry est quelqu'un qui croit, la foi fondamentale de Ferry, c'est l'égalité de la raison chez les êtres. C'est ce qui l'amène à plaider pour l'éducation des filles. Il n'y a aucune raison, dit-il, de supposer que les femmes soient inégales en raison. Et du reste, il y a un texte magnifique dans le fameux discours de la salle Molière, où il dit « J'entends ici et là des voix qui s'élèvent pour dire « Mais les femmes sont faites pour ceci ou cela. » Et Ferry dit « Mais comment savez-vous que les femmes sont faites pour ceci ou cela avant de leur avoir donné les moyens de l'éducation ? Vous ne leur avez pas donné les moyens de l'éducation. En réalité, nous ne savons pas ce que sont les femmes. Attendons, pour définir les femmes, de leur avoir donné les mêmes moyens de développement qu'aux hommes. » Imparable comme démonstration. En ce qui concerne maintenant les indigènes, Ferry a exactement le même raisonnement contre tous les colons, vent debout contre l'obsession de Ferry de quadriller le territoire algérien d'autant d'écoles qu'il a quadrillé le territoire français. Les colons algériens sont vent debout et ils finissent par baptiser Ferry, un dernier sobriquet, lui qui en a eu tellement dans sa vie, le gâteux du Sénat. Le gâteux du Sénat qui croit qu'on peut éduquer les Arabes, qui non seulement croit qu'on peut éduquer les Arabes, mais plaide pour qu'on enseigne dans les écoles françaises l'histoire arabe, la civilisation arabe et la langue arabe. Et qui le dit très explicitement, il dit n'allons pas faire en Algérie comme les Allemands sont en train de faire en Alsace-Lorraine. N'allons pas, ils sont en train d'essayer de germaniser la plaine, comme on disait à l'époque, nous n'allons pas franciser les rivages sur lesquels nous avons porté le pied. L'idée qu'une fois la France établie quelque part, elle va franciser les pays dans lesquels elle est installée est une idée folle. Nous n'y arriverons pas, c'est une idée absurde. Et donc, Ferry plaide pour un enseignement qui soit un enseignement respectueux des traditions du pays et qui ne proclame pas que le but de ces écoles est de faire des petits Français. Ce n'est pas du tout le but de Ferry. Mais de donner à ces enfants la capacité du raisonnement critique et de la délibération collective, comme il est en train de le faire dans les écoles françaises. Donc quand on a lu tous ces textes, ils sont des textes presque émerveillés. Il y a deux textes qu'on pourrait mettre presque en parallèle. Il y a un texte de Ferry, où Ferry est à Meudon, sur les terrasses de l'Observatoire, par un beau jour d'été, et où de cette terrasse de Meudon, il croit voir, d'ailleurs il voit sans doute, enfin, autour de lui, toutes les écoles qu'il a créées, les écoles normales supérieures de Saint-Cloud et de Fontenay, le lycée Ses Filles, le lycée La Canale, et tous ces établissements d'enseignement où on forme les formateurs et du coup qui vont irriguer tout le territoire français. Il y a une scène presque parallèle où il est à Elbiar, aussi sur une terrasse, et où il tient sous son regard, à la fois visuellement et imaginairement, toutes les écoles qu'il a créées en Algérie et où il en attend au fond les mêmes bénéfices. Difficile de faire de cet homme un portrait, le portrait du colonialiste enragé. De la même manière, il y a une anecdote qui est dans les archives de Saint-Dié et qui est particulièrement frappante. Ferry avait fait l'inspection d'une école en Kabylie, flanquée d'un inspecteur d'académie français, et l'institutrice française, honorée de recevoir ces grands personnages, ces messieurs, avait fait venir au tableau, bien sûr, son meilleur élève, le plus doué de la classe. Et à cet élève, l'institutrice dit « Tu vas dire à ces messieurs ce que c'est que la France ?» Et le bon élève répond avec l'exaltation convenable. Il dit « La France est notre mère. » Et Ferry note en marge « Pauvre petit perroquet, point d'exclamation, dit plutôt notre marâtre. » Voilà le colonialiste.
1881, traité du Bardo.
Oui.
Protectorat
tunisien.
Tunisien. 83-85, le Congo français.
Oui.
Et ensuite.
Le Tonkin.
Alors là, les choses se gâtent.
Oui, les choses se gâtent parce que l'expédition ne se passe pas très bien, parce que les communications sont lentes, parce que Ferry est lié par des traités qu'il a signés avec la Chine, et que ce qui apparaît à Paris comme une débâcle, la débâcle de Langson, n'est en fait pas du tout une débâcle.
Mais celle du 25 mars.
Oui, mais Ferry doit se taire, et là, c'est l'estocade finale que lui porte Clémenceau dans un discours resté célèbre, et où effectivement, quand on l'écoute aujourd'hui, tout nous porte du côté de Clémenceau. Il faut dire que ça n'est pas...
L'accusant de haute trahison.
L'accusant de haute trahison, avec toujours chez Clémenceau l'idée, vous dérivez l'énergie nationale vers des contrées exotiques où nous n'avons rien à faire, vous nous donnez 20 domestiques et vous nous privez de deux filles, l'Alsace et la Moselle. C'est-à-dire que vous reculez d'autant plus la revanche et que vous éloignez, vous endormez les Français dans une gloire de pacotille en faisant oublier le malheur fondamental de la France qui est l'amputation territoriale, qui effectivement, il faut se rendre compte, c'est que c'est la première fois que le territoire se trouve ainsi amputé. Et donc ça, on ne comprend rien à la politique française de ces années-là si on ne garde pas cela en mémoire. Alors cette accusation portée contre Ferry va venir à bout de sa carrière politique. S'achève là, même s'il y a une petite compensation sur le traitard avec la présidence du Sénat, mais qui est...
Et il meurt trois mois après.
Et il meurt trois mois après. Et donc là, Clémenceau vient à bout de lui. Ce n'est pas la première escarmouche entre Clémenceau et Ferry, où il y a d'ailleurs une sorte d'opposition de tempérament qui, elle aussi, demanderait un romancier. Parce que ils sont très proches l'un de l'autre, d'une certaine manière, à la fois...
Vous dites qu'ils sont à contre-emploi.
Moi, je dis ça ?
Oui, je crois.
Je ne sais pas, on va peut-être... j'en sais rien. Ils sont très proches, pourquoi ? Parce que ce sont deux hommes extraordinairement tenaces et courageux, que rien n'intimide. Et bon, ils sont deux patriotes. Et là, la justice absolue de Clémenceau, c'est de faire passer Ferry comme un oublieux des provinces perdues. Ça, c'est absolument injuste. Et c'est insupportable pour Ferry, qui est quand même l'enfant des Vosges, l'enfant de la ligne bleue des Vosges, qui demandera à être enterré sur la ligne bleue des Vosges, ce qui interdit toute panthéonisation de Ferry aujourd'hui, entre parenthèses, puisque le thème du Panthéon est à la mode. Donc, Ferry est un patriote aussi ferme que Clémenceau, mais il y a deux tempéraments différents, et à mon avis, il y a deux réactions différentes à l'égard du temps, ou deux philosophies du temps tout à fait différentes. Ferry est de toute manière l'homme de la durée. C'est l'homme des héritages, c'est l'homme de la lenteur. C'est l'homme qui a appris sous l'Empire, dans cette sorte de période de diète politique que toute cette génération a été obligée de vivre. C'est moins important pour Clémenceau, qui est 10 ans plus jeune. Pas tout à fait la même chose. Et donc, dans cette période donc, de diète politique, Ferry a appris les vertus de la lenteur, de la politique des petits pas. Il n'est jamais, comment dire, dédaigneux des petites avancées que l'on peut faire. C'est quelqu'un qui est viscéralement hostile au maximalisme politique des Français. Et maximalisme politique des Français que nous connaissons bien, puisque quand nous n'avons pas le tout d'une réforme, nous déclarons que nous n'avons rien. C'est vrai, c'est encore vrai aujourd'hui. Il y a là-dessus d'ailleurs, sur cette crispation maximaliste des Français, il y a une très belle phrase d'un philosophe républicain, du philosophe de la République, qui est Charles Renouvier, et qui dit cette phrase profonde, qui est d'application immédiate et contemporaine: pour les Français, tout ce qui n'est pas idéal est misère. Tout ce qui n'est pas idéal est misère, autrement dit, une petite réforme n'est rien, est considérée comme rien, une petite avancée n'est rien, elle sera plutôt présentée comme une reculade, une timidité, une frilosité, etc. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Donc Ferry, c'est l'homme du temps, c'est l'homme des petits pas, c'est l'homme qui pense par exemple que imposer la mixité de l'enseignement, comme quelques-uns à l'extrême gauche le lui demandent à l'époque, qu'est-ce que ça aurait comme répercussion de faire l'enseignement mixte des garçons et des filles à cette époque? C'est très simple, ça viderait les écoles publiques au profit des écoles catholiques. Il n'y aurait plus un chat à l'école publique. De la même manière, Ferry, lorsque la loi impose d'ôter les emblèmes religieux des salles de classe, ôter les crucifix des salles de classe, oui, Ferry dit aussi, très bien, parfait, on va enlever les emblèmes religieux. Mais il y a des circulaires d'application qui sont particulièrement savoureuses à lire. Qu'est-ce qu'elle dit, ces circulaires d'application ? Que c'est pas mal d'attendre, si ça fait du bruit dans la commune, l'enlèvement du crucifix, on peut attendre une entreprise de réfection des locaux de l'école. Et puis quand le peintre vient... on décroche le crucifix, puis on oublie de le remettre. Maintenant, s'il y a un tollé dans la commune qui dit « mais où est le crucifix ?», bon, on le raccroche, provisoirement. Et les mémoires des instituteurs de cette époque sont pleines de récits où ils ne savent plus où ne savent pas où mettre le crucifix. Généralement, le crucifix aboutit dans l'armoire à linge, derrière la pile de draps. Et de temps en temps, un de ces instituteurs, dans les mémoires et les récits qu'ils ont laissés, dit, ce qui montre d'ailleurs encore la prégnance de la prégnance de catholique surtout, aussi. Il dit, j'ai été ranger l'armoire à linge, je lui ai touché les pieds. Il y a une sorte de terreur sacrée. Et vraiment, on ne sait pas que faire. Mais malgré tout, dans énormément de classes françaises, après la réfection des locaux scolaires, le crucifix ne reparaît plus, les gens l'ont oublié, et ça se passe comme ça. Donc Ferry est toujours très, très anxieux d'une loi politique qu'il faudrait comprendre, faire comprendre, c'est que les lois ne passent que quand elles sont écoutables. Donc, il faut les rendre écoutables.
Je vais vous demander de conclure, peut-être.
Oui, j'ai du mal toujours à conclure. J'en reviens à Clémenceau et Ferry, ça fera une conclusion. Donc, je dis que une des différences entre les deux hommes, c'est que Clémenceau est un homme impatient, qui veut tout de suite, qui du reste s'oppose à Ferry dans toutes ses réformes, y compris les réformes scolaires, y compris la réforme sur la loi d'association, parce que Clémenceau, pardonnez-moi, en bon jacobin, pense qu'il ne doit rien y avoir entre l'individu et l'État, et que donc il n'est pas fou, lui, de la liberté d'association. On voit là qu'il y a une différence de tempérament de deux hommes qui ont compris la Révolution de manière... C'est au fond la manière de comprendre la Révolution française. Tous ces hommes rejouent la Révolution française un siècle après. Et c'est cette manière de comprendre la Révolution, je crois, qui oppose fondamentalement les deux hommes. À quoi je reviendrai à ma conclusion, à la conclusion qui serait la mienne sur Ferry, c'est que le grand mérite de Ferry, la grande reconnaissance que nous devons à Ferry, c'est d'avoir précisément rendu la Révolution française acceptable par les Français et d'avoir rapatrié la Révolution dans la République. Ça vous va comme conclusion ?
Merci beaucoup. C'est très bien.